Bon, bien, j'espère que vous allez bien. Hein? Voilà, c'est pas le temps qui va nous retenir, de toute façon. Et j'étais assis là et je pensais à une chose, à notre modernisme, et qui va bientôt s'élever avec les voitures électriques. Et une voiture électrique, si on ne la recharge pas, eh bien elle ne va pas bien loin. Et en fait, il faut la recharger apparemment régulièrement. Comme une voiture qui n'a pas de carburant, tout à fait. Mais là n'est pas la polémique. Je voulais dire simplement que je suis heureux du dimanche et du dimanche matin. Parce que c'est là que nous venons recharger nos batteries. Afin de pouvoir tenir toute la semaine. Eh bien, c'est le dimanche matin, dans la communion fraternelle, dans la présence de Dieu, avec cette rencontre que nous avons les uns et les autres, qui va nous édifier, avec l'onction du Saint-Esprit qui va nous élever, et nous allons être rechargés à bloc, comme ça on va pouvoir tenir le lundi, le mardi, le mercredi, et nous allons arriver au dimanche suivant. C'est merveilleux. C'est merveilleux que d'être là, dans la présence de Dieu. Et je réfléchissais une fois de plus et je me disais, c'est étonnant, parce que Muriel et moi, nous ne nous sommes pas concertés du tout. Muriel a préparé ses chants de son côté. Moi, je me suis mis dans la présence du Seigneur pour savoir, pour comprendre ce qu'il voulait que je dise. Et j'ai noté une certaine cohérence. Le Seigneur sait ce qu'il fait, et le Saint-Esprit aussi. C'est vraiment quelque chose de merveilleux que de marcher avec le Seigneur et que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Dieu parle encore aujourd'hui, et il parlera tout le temps. Prions avant de commencer, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu merveilleux et c'est pour ça que nous venons vers toi. Nous venons vers toi pour écouter le son de ta voix, pour écouter ce que tu as encore à nous dire, pour disposer nos cœurs à ta parole et pour que nous sachions glorifier ton nom comme il doit être glorifié. Oui Seigneur, je te prie maintenant pour ce moment. Pour ce moment où nous allons ouvrir ta parole et où je vais parler et dire ce que tu as mis sur mon cœur. Que l'onction du Saint-Esprit repose sur toutes ces paroles et que nous ayons un cœur disposé et des oreilles attentives pour comprendre, pour écouter et pour appliquer tout ce dont tu veux que l'on sache et que toute gloire te revienne, que la louange te revienne. Et que tu en sois glorifié pour la seule et unique gloire de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Alors je vais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Colossiens. Et nous allons commencer au chapitre 2 et nous allons lire à partir du verset 6. Il est dit la chose suivante. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui. Affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée. Et soyez en riche en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'a pas été faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, et vous avez été aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et les a annulés en les clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Et mon titre, quelque peu étonnant, sera le suivant. Est-ce que je sais que je sais que je sais que... Et là, je vous autorise à me dire, oui, mais que quoi? Nous venons de parler de la Pâque, de Christ ressuscité. Christ ressuscité, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, la suite, c'est quoi? Est-ce que je sais, que je sais, que je sais que le Dieu en qui je crois est le Dieu redoutable, que rien n'est trop grand pour lui, quelle que soit la situation dans laquelle je traverse. Rien ne lui est impossible. Est-ce que je sais, que je sais, que je sais que le sang de Christ versé à la croix me rend plus que vainqueur? Comme nous venons de le lire au verset 14, il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et les a annulés en les clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle, triomphant d'elles par la croix. La croix, le sang de Christ. Alors c'est au travers de trois histoires que nous allons voir ensemble, qui chacune ont un point commun. La fidélité du Dieu en qui nous croyons. La première histoire, nous allons la prendre dans Néhémie. Oups, pas facile avec un micro. Nous allons la prendre avec Néhémie. Et nous allons voir Néhémie. Qu'est-ce qu'il dit au premier chapitre, le livre de Néhémie? Néhémie se trouve dans la capitale, à Suse. Là, des frères viennent le rencontrer et lui apporter quelques nouvelles. Malheureusement, les nouvelles que Néhémie va recevoir ne sont pas vraiment bonnes. Je dirais même mieux qu'elles ne sont pas du tout encourageantes. Et Néhémie va s'écrouler. La tristesse va remplir son cœur. Il va être abattu. Il va être abattu, oui, mais il ne va pas se lamenter. Il va être abattu, oui, mais il ne va pas s'en prendre à Dieu. Il ne va pas dire, oui, Dieu, pourquoi? Et pourquoi ceci? Et pourquoi ceci? Non, 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 non. Il va rentrer en lui-même. Il va prier. Il va jeûner. Et il va dire, Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui conserves ton alliance et ta bonté à ceux qui t'aiment et qui respectent tes commandements. Il va rendre la gloire à Dieu, il va glorifier Dieu en lui disant, toi, tu es redoutable. Tu es le Dieu redoutable et ta bonté dure éternellement. Voilà ce que ça veut dire. Au point que, au chapitre 2, il va nous dire que, alors qu'il va servir le roi, il va trouver la faveur du roi concernant justement ce qui l'abattait. Et lorsque le roi va lui dire, mais Néhémie, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu si pâle? Tu es malade? Il t'arrive quelque chose? Il va commencer à ouvrir son cœur. Et auparavant, il avait demandé à Dieu de trouver la faveur du roi. Et il a obtenu la faveur du roi pour aller à Jérusalem. Le sujet de sa tristesse, remonter la muraille, reconstruire la muraille. Parce que ce qu'on lui avait dit, c'est que la muraille était complètement un désastre, que les portes étaient complètement démolies. Voilà ce qui faisait la tristesse de Néhémie. Et là, il a obtenu la faveur du roi pour aller à Jérusalem, reconstruire la muraille. Dieu a répondu. Parce qu'il a reconnu que le Dieu en qui il croyait était un Dieu redoutable. Il était le grand Dieu, le fidèle. Dieu est parti. Néhémie est parti. Il est parti. Mais tout ne s'est pas passé aussi facilement que l'on pourrait le croire. Dieu répond, il bénit. Mais en route, il va y avoir des obstacles. Il va y avoir des oppositions. Et alors que Néhémie est à Jérusalem, il va y avoir une grande opposition qui va s'élever. Cette opposition, elle s'appelle Sambala. Cet homme avait décidé de rendre les projets de Néhémie caducs. Il voulait se mettre en travers des projets. Néhémie ne s'est pas laissé démonter. Néhémie a su tenir ferme dans le Dieu en qui il croyait. Et Néhémie, avec tous les gens qui l'entouraient, nous voyons ça au chapitre 4, quand ces gens se sont élevés pour s'opposer à Néhémie sur la construction de la muraille, il va s'élever et il va leur dire, mais n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, souvenez-vous. On le trouve au verset 8 du chapitre 4. « Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. Souvenez-vous. » Et là, Néhémie est en train d'encourager les gens qui l'entourent pour que l'œuvre pour laquelle il est venu soit accomplie. Il ne s'est pas laissé faire, il ne s'est pas laissé abattre. Il ne s'est pas laissé abattre. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu est le grand Dieu redoutable et fidèle, rempli de bonté. Et ce matin, je voudrais rappeler et vous rappeler ce qui est écrit dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 8 et au verset 15 et 16, où Paul dira: vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et au verset 35, il dira « Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ, ni la détresse, ni l'angoisse, ni la persécution, ni la faim, pas même la mort. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Choisir de regarder à Dieu plutôt qu'aux difficultés nous rendra victorieux. Choisir de ne pas laisser notre cœur se remplir de détresse et d'angoisse, mais de ranimer à notre esprit que rien n'est impossible à Dieu, qu'il est assis sur son trône et qu'il gère toutes nos situations, quelles qu'elles soient. Et qu'en lui, nous sommes plus que vainqueurs. C'est la seule et unique chose que nous avons à proclamer. Le choix, c'est de dire que Christ est vainqueur. Quel que soit ce que nous vivons, quel que soit ce que nous allons rencontrer, Christ est plus que vainqueur. Rappelons-nous ce que le psaume 33 au verset 11 va nous dire. Les plans de l'Éternel subsistent éternellement et les projets de son cœur de génération en génération. Mais alors, qu'est-ce que l'on craint ? Pourquoi marchons-nous dans la crainte ? L'esprit que Dieu nous a donné est un esprit de victoire par lequel, comme nous l'avons vu, nous crions « Abba, Père ». Nous n'avons pas à marcher les bras en bas, la tête basse, mais à relever la tête, savoir que le Dieu en qui nous croyons est le Dieu fort et redoutable, et que Christ à la croix a vaincu toute chose. Devant Dieu, aucune cause n'est perdue. Nous pouvons lire dans Michée au chapitre 7 et au verset 18 et 19, Michée dira la chose suivante. Quel Dieu est semblable à toi ? Tu pardonnes la faute, tu oublies la révolte du reste de ton héritage. Dieu ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bonté. Il aura encore compassion de nous, il piétinera nos fautes. Et si l'on regarde dans les Lamentations de Jérémie, au verset 31 du chapitre 3, il nous dira en effet, le Seigneur ne rejette pas pour toujours, mais quand il cause du chagrin, il fait preuve de compassion tant sa bonté est grande. Combien de paroles encourageantes nous avons dans la parole de Dieu pour justement proclamer à l'ennemi de notre âme que notre Dieu est le Dieu grand, fort et redoutable. Et justement, en parlant de Jérémie, la deuxième histoire que nous allons regarder, c'est Jérémie. Je vous ai parlé de points communs. Nous avons vu l'attitude de Néhémie. Maintenant, nous allons voir l'attitude de Jérémie. Quand on regarde le chapitre 3 de Jérémie, c'est une catastrophe. Parce que Jérémie va dire « Je suis l'homme qui a vu la misère sous le bâton de sa fureur. » Et au verset 6, il va dire « Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. » Et au verset 8, il va dire « J'ai beau crier et implorer du secours, il tient ma prière enfermée. » Et au verset 14, il va dire « Je suis pour tout mon peuple un objet de moquerie à longueur de journée. » C'est vraiment une catastrophe ce que Jérémie est en train de vivre. Son histoire est beaucoup glauque, elle est vraiment triste cette histoire. Il a tout lieu d'être abattu, Jérémie. On ne va pas lire le pourquoi parce que ça se trouve dans le livre de Jérémie, mais il est vraiment abattu. Et au verset 17, il va dire « Tu m'as enlevé la paix, j'ai oublié ce qu'est le bonheur. » Alors je ne sais pas pour vous, quand vous passez au travers de situations, si vous dites la même chose que Jérémie, mais il y a une chose qui m'interpellera plus que ce que Jérémie est en train de dire, parce que Jérémie est en train de dresser un tableau, ploum, 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 petit à petit, il tombe. Mais subitement, il va dire, voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Ça, c'est le plus important. Voici ce que je veux méditer. Qu'est-ce qu'il va méditer ? Il va méditer que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, que ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Jérémie ne reste pas dans cette attitude-là de tristesse, de ténèbres. Il ne laisse pas son cœur envahir. Il va dire, oui, c'est vrai tout ce qui m'arrive. Mais les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Elles vont se renouveler chaque matin. Pour moi, elles seront là. Parce que l'Éternel est un Dieu de compassion. Je déclare l'Éternel est mon bien. Il ne va pas dire, oh, qu'est-ce que m'a fait Dieu? Non, il va dire, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. Je veux m'attendre à lui. Je passe au travers de situations catastrophiques. Je passe peut-être au travers du feu. Mais mon Dieu est un Dieu grand et redoutable et je veux m'attendre à lui. Je veux m'attendre à lui. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Est-ce que je sais, que je sais, que je sais, que je sais que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme? Est-ce que tu le sais dans ta vie? J'aimerais vous raconter une histoire qui est la mienne. Lorsque je suis arrivé en Angleterre en 1998, j'avais une quarantaine d'années. Je venais de tout perdre en France. J'avais plus de travail, j'avais plus d'argent, j'avais strictement plus rien. J'étais complètement désespéré. J'étais complètement dans une détresse profonde que je n'y a aucun mot pour exprimer l'attitude dans laquelle où je suis arrivé. Et en plus, j'arrivais dans un pays qui n'était pas le mien, avec une culture différente, avec une langue que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais parlé. J'étais là et je ne savais pas à quel bois j'allais être mangé. J'étais là complètement désemparé, avec dans le cœur de me dire, j'ai vraiment été trop loin avec Dieu. Les portes du ciel, de toute manière, me seront fermées. Dieu ne voudra plus de moi, forcément. J'en ai trop fait, je lui en ai trop fait voir. Et comme une expression le dit, t'as poussé le bouchon un petit peu trop loin avec Dieu. Pour moi, c'était fini. Dans mon cœur, c'était fini. Je n'avais plus rien à attendre. Strictement rien. Mais là où je croyais que c'était fini, pour Dieu, ce n'était que le commencement. C'était que le commencement d'une histoire merveilleuse. Parce que 3 mois après, sans savoir parler la langue, sans rien du tout, j'ai trouvé un travail dans une entreprise qui venait de s'installer en Angleterre. Cette entreprise, c'était une entreprise française et elle cherchait un Français. Un Français pour travailler au sein de cette entreprise et faire la liaison entre la France et l'Angleterre. Je suis allé à l'entretien d'embauche. Le lendemain, j'avais l'emploi. J'ai même pas posé de CV, rien du tout. C'était comme si tout était préparé. Dieu avait déjà commencé à préparer le chemin. Et j'ai été embauché. J'étais content. Mais ça ne me rapprochait pas de Dieu pour autant. J'étais toujours dans mon même marasme. J'étais toujours dans ma même solitude, détresse. Alors dans la maison où j'étais, il y avait une télévision, mais je l'allumais, mais je ne comprenais rien. Rien de ce qui se disait. Si ce n'est qu'un jour, un dimanche, je regardais un programme, je ne comprenais rien de ce que la personne dans l'écran disait. Mais par contre, je reconnaissais une chose. C'est que ce que j'étais en train de regarder, ces chants que j'étais en train d'entendre, c'était des chants que je connaissais par rapport à la France, par rapport à l'église quand j'étais en France. Parce que cette émission que j'étais en train de regarder, sans le savoir, c'était une émission de louanges et de prières, Song and Praise, qui ont lieu tous les dimanches après-midi. Et là, j'entendais ces mélodies, j'entendais ces chants, c'était en anglais, mais je les comprenais puisque j'avais chanté les mêmes choses à l'église. Mais mon cœur me disait, c'est pas pour toi, c'est fini ça. C'est fini, ne compte plus sur cette grâce-là. Tu n'y as plus droit. Toi, c'est fini. Dieu ne veut plus de toi. Les portes du ciel te sont fermées. Tu en as trop fait. Tu es un vaurien, tu es un incapable. Et lorsque j'étais donc dans cette société où je travaillais, un jour, j'étais à la fin de la journée, j'allais partir. Et la direction m'a appelé en me disant, voilà, on a notre ami qui doit prendre le train. Est-ce que tu voudrais bien la raccompagner à la gare ? Moi, je dis oui, il n'y a pas de problème. Donc, allez, on s'embarque dans la voiture et nous voilà partir à la gare. Ce que j'avais oublié, c'est que je ne savais pas où était la gare. Ça fait drôle quand même, hein ? Surtout quand je lui ai dit. Je lui ai dit, à quelle heure tu es à ton train ? Elle me dit, l'heure. J'ai dit, de toute façon, tu l'as raté. Parce que je ne sais pas où c'est la gare. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux te déposer chez toi. Comme ça, on ira beaucoup plus vite. Elle me dit, oui, d'accord, pas de problème. Et en route, elle m'a parlé. Et elle me donnait son témoignage. C'était une chrétienne que j'avais dans la voiture. Regardez comment Dieu prépare un terrain. C'était une chrétienne, et une chrétienne charismatique. Elle était en train de me raconter la gloire de Dieu, ce que Dieu avait fait avec elle, dans sa vie, etc. J'ai dit, oui, moi j'ai été chrétien un jour. Mais pour moi, c'est fini, ça. Parce que j'y ai plus droit. Puis elle continuait à parler. Puis nous sommes arrivés chez elle. Je l'ai déposée. Et avant de partir, elle m'a regardé droit dans les yeux. Et elle m'a dit, Serge, il faut revenir à l'église. Ce qu'elle m'a dit, ça m'a fendu le cœur. J'ai reçu cette parole comme un feu. Ça m'a déchiré. Et puis, nous ne sommes plus jamais revus. Mais les paroles demeuraient dans mon cœur. C'était un vendredi, le samedi matin, je marchais dans la rue de la ville où je me trouvais. Puis ces paroles résonnaient dans mon cœur. Oui, mais t'es bien marrant, toi, trouver une église. Et où je vais la trouver, moi, cette église ? Dans ce milieu où je suis, que je ne connais même pas, dont je ne connais même pas la langue. Et puis en par là, je marchais comme ça, puis je me relève la tête, je vois un bâtiment, Assembly of God. Mais je dis, là voilà ton église, Assemblée de Dieu, Church. Ah ! J'ai dit, ben voilà, nous sommes samedi, demain c'est dimanche, tu y vas. Au même moment, dans mon cœur, j'ai dit, tu auras l'air malin quand tu vas rentrer, à peine tu seras rentré, qu'on va commencer à t'accoster et à te parler, et tu ne comprendras rien du tout. Tu ferais mieux de laisser tomber. Et puis j'ai pris mon courage à deux mains et je suis rentré dans cette église le dimanche matin. Bien entendu, le pasteur est arrivé. Welcome. Sorry, I'm French. I do not speak English. Je ne comprends pas du tout. Il m'a dit, don't worry, ne t'inquiète pas. Je vais te mettre à côté de quelqu'un qui comprend le français. Moi, j'ai dit, c'est chouette. En fait, le quelqu'un, il comprenait le français comme moi, je comprenais l'anglais. Mais c'est pas grave. J'étais installé. Et là, d'un seul coup, le Saint-Esprit est en train de me bouleverser une fois de plus. Une fois de plus, le Saint-Esprit est en train de remplir mon cœur. Une fois de plus, le Saint-Esprit et le Seigneur est en train de me rappeler à lui. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Jésus disait, nul ne les ravira de ma main. Mes brebis, elles m'appartiennent. Nul ne les ravira de ma main. La parole de Dieu est vivante. Dans une histoire, il y a un homme qui disait, il faisait un rêve, et disait que comme il marchait sur la plage au soir de sa vie, il s'est retourné, et il a vu sur le sable des empreintes de pas. Et chaque pas était un jour de son existence, et ils étaient tous là. Il les a comptés, il les a reconnus. De loin, il dit, j'ai pu voir à côté de mes traces s'imprégner une trace jumelle. C'était les pas de Dieu qui marchaient à côté de moi, côte à côte, comme il me l'avait promis tout au long de ma vie. Et comme je regardais ce long ruban de nos traces parallèles, il me semblait qu'à certains endroits, il se rétrécissait et qu'une seule empreinte se lisait sur le sable. C'était l'empreinte des jours les plus noirs, ces jours de larmes et de deuil, lorsqu'on se sent souvent très seul et abandonné, jours d'angoisse et de mauvais vouloir aussi, jours d'épreuve et de doute, jours intenables. jour où moi aussi j'avais été intenable. Alors je me suis retourné vers le Seigneur et j'ai osé lui faire des reproches. Tu m'avais promis d'être avec nous tous les jours. Seigneur, où étais-tu lorsque j'avais toutes ces épreuves? Où étais-tu lorsque j'ai tant pleuré? Pourquoi tu ne marchais plus à mes côtés? Et le Seigneur lui a répondu, mon enfant bien-aimé, les jours où tu ne vois qu'une trace sur le sable, c'est les jours où je te portais. Dieu ne nous abandonne pas. Nous, on va peut-être l'abandonner, on va s'éloigner. Nous, on va rencontrer des situations. Mais au plus bas de nos détresses, quand on ne peut plus marcher, c'est lui qui nous porte. La bonté de Dieu sera toujours une manière que nous ne pouvons tout le temps comprendre. Le Seigneur ne fait exception de personne. Chez lui, il n'y a pas de favoritisme. Je n'ai pas fait d'école biblique ou de théologie, mais le Saint-Esprit m'a enseigné et m'enseigne encore aujourd'hui tout ce dont j'ai besoin de savoir. Et ça s'appelle l'école de Dieu. Ses promesses ne changent pas, elles sont éternellement les mêmes. Il manifestera à notre égard la même miséricorde qu'il manifestait à son peuple décrit dans l'Ancien Testament. Ça, c'était pour la deuxième histoire. La troisième histoire, elle va se trouver dans le livre des Rois, le deuxième livre des Rois, chapitre 21 de 1 à 18, où dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 33, 12 et 16. Il s'agit de l'histoire du roi Manassé. Alors, je ne sais pas si vous avez lu l'histoire de ce roi, mais c'est quelque chose de très intéressant. Parce que ce roi, qui a régné pendant 55 ans à Jérusalem, a fait les pires des choses devant la face de Dieu. Il s'est comporté, il a eu une attitude qui a été la pire des attitudes de tous les rois, d'absolument tous les rois. Et un jour, l'Éternel s'est adressé à lui. Et on voit ça dans le chapitre 33, au verset 11, où il est dit, « Alors l'Éternel me fit venir contre eux, les chefs des armées, le roi de Syrie, etc. Et ils capturèrent Manassé, lui mirent des crochets, l'attachèrent avec des chaînes en bronze et le conduisit à Babylone. » Et là, le roi Manassé, il est complètement atterré. Il est complètement atterré. Et là, il va avoir une attitude. Encore une fois, un autre point commun. Il va avoir une attitude et lorsqu'il fut, le verset 12, il nous dira, lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu. Il s'humilia profondément devant le Dieu de ses ancêtres. Il lui adressa des prières. J'aime beaucoup la suite. Et l'Éternel se laissa fléchir. Face à l'attitude de Manassé, qui avait été un roi abominable, lorsqu'il a commencé à s'humilier devant l'Éternel, l'Éternel se laissa fléchir. Vraiment, il faut lire l'histoire qui est dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 33, où il nous raconte réellement le règne de Manassé. Et là, il fut rétabli. Manassé reconnut alors que c'est l'Éternel qui est Dieu. Là, d'un seul coup, Manassé a changé complètement son attitude. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Les exemples que nous trouvons dans l'Ancien Testament de Dieu à l'égard de son peuple devraient nous donner la ferme assurance que la miséricorde de Dieu n'échoue jamais. Et ce matin, Mon frère, ma sœur, mon ami, je voudrais te le dire. Ta situation n'est pas ignorée devant Dieu. Si tu penses que la chose est impossible parce que tu penses ne pas être à la bonne place ou que dans ton cœur, tu te fais des reproches, rappelle-toi que pour Dieu, rien n'est impossible, mais que tout est possible à celui qui croit. Quand tu es découragé, brisé par l'échec ou par un comportement ne venant pas de Christ, quand tu te demandes si Dieu se soucie encore de toi, si son amour pour toi est toujours le même, sache alors que la vérité est dans ton cœur, car Dieu, lui, ne change pas, il reste le même. Si tu t'approches de lui, il s'approchera de toi. Jésus-Christ parle encore aujourd'hui et il dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, parce que mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Et dans le livre des Nombres, au chapitre 23 et au verset 19, on pourra lire que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et Jacques, lui, au chapitre 1er et au verset 17, nous rappellera que tout bienfait et tout don parfait nous viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu reste le même. Il restera éternellement le même. Dans Ésaïe, au chapitre 57, voilà, et au verset 15, nous pouvons lire la chose suivante. En effet, voici ce que dit le Très-Haut, celui dont l'habitation est éternelle et le nom saint. J'habite dans les hauteurs et la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu, afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. J'ai vu sa conduite, mais je le guérirai, je le guiderai et je lui assurerai une pleine consolation à lui et à ceux qui sont en deuil à cause de lui. Oui, les promesses de Dieu sont là, immuables, bien certaines. Elles ne dévient jamais. Un jour, un évangéliste anglais du nom de Dwight Lyman Moody, évangéliste du 19e siècle, a dit la chose suivante: la Bible ne nous a pas été donnée pour augmenter nos connaissances, mais elle nous a été donnée pour changer notre vie. C'est pour cela qu'il faut la lire, la méditer, car non seulement elle nous apporte la vie, mais surtout nous permet de connaître qui est Dieu, de savoir qu'il nous aime et qu'il nous aime d'un amour éternel. La parole de Dieu est vivante. Aucune créature n'est cachée devant lui. La parole de Dieu nous console, nous restaure, nous renouvelle, nous affermit, car elle est remplie du Saint-Esprit. Elle est remplie de l'Esprit. Elle est esprit et vie. Le sacrifice de Christ à la croix n'est pas vain. Son sang versé nous purifie de tout péché. Il a tout accompli pour que nous ayons la vie, et la vie en abondance. Paul nous dira dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 6 et au verset 11, « Vous avez été lavés, Vous avez été déclaré saint, mais vous avez été déclaré juste au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alors, lorsque le poids de la condamnation vient frapper à ta porte, rappelle-toi que le sang de Christ a été versé pour toi et qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Qu'il est celui qui prend soin de toi. Il prendra soin de toi jusqu'au jour où tu le rencontreras. Parce qu'il est fidèle. Parce qu'il ne change pas. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent pour toi chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Mais elles se renouvellent pour toi chaque matin. Prends-le pour toi. Fais de la parole de Dieu ta propriété. Dieu veut nous encourager au travers de sa parole et que sa parole vienne directement. Donc, qu'on se l'approprie. Il faut s'approprier des promesses de Dieu. Savoir que le sang de Christ nous rend plus que vainqueurs. Le sacrifice de la croix est ce qu'il y a de plus important. Si son sang a été versé, c'est pour que nous marchions en vainqueur. S'il a cloué les dénominations, il les a clouées à la croix, c'est pour que nous marchions fermes et assurés de savoir que ce Dieu en qui nous croyons, qui nous a tant aimés et qui a donné son Fils unique afin que nous ayons la vie, c'est pour que nous soyons des vainqueurs. C'est pour que nous ayons l'assurance qu'il est chaque instant de chaque jour avec nous et qu'il vit en nous. Parce que Jésus est vivant, il vit en nous. Il vit en nous par la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi il dit « Je ne vous laisserai pas seul » ? Parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Il nous a donné cette puissance qui confirme que nous sommes réellement enfants de Dieu. Et que nous devons nous tenir fermes devant les mensonges du diable qui lui veut nous assaillir. Non, il n'a aucune autorité parce qu'il a été cloué à la croix. Et le sang de Christ repose sur nous. Quand ça ne va pas, mets le sang de Christ sur toi. Appelle le sang de Jésus. Ne te laisse pas vaincre, mais surmonte le mal par le bien et surmonte ta faiblesse par ton esprit conquérant de vainqueur. Fais comme Néhémie, Dieu grand et redoutable. Non, la fidélité de Dieu reste la même. Ce que sa parole dit, sa main l'accomplit. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour tous les encouragements que tu veux bien nous donner ce matin. Merci pour cette parole qui est vie, qui est esprit et qui est vie. Et sur laquelle nous voulons fixer nos yeux. Parce que ta parole est la vérité. Merci Seigneur parce que tu es celui qui nous conduit chaque instant de chaque jour. C'est toi le rocher de notre salut. Merci alors ce matin d'avoir été à l'écoute de ta parole et que notre cœur et nos oreilles sachent retenir ce que le Saint-Esprit a bien voulu nous dire. Merci Seigneur pour ce moment et que toute gloire te revienne. À toi seul, Jésus-Christ. Amen.